Madame, Monsieur, bonjour. En partenariat avec H Village, nous sommes très heureux de vous partager ce podcast Culture nutritionnelle et grand âge. Du 18 au 25 novembre, le collectif national de lutte contre la dénutrition a organisé, cette année encore, une semaine de sensibilisation. Le collectif se donne pour objectif de prévenir, dépister et prendre en charge les personnes qui souffrent de dénutrition. 2 millions de personnes sont touchées, un enfant hospitalisé sur 10, 25% des personnes âgées à domicile, 50% de celles hospitalisées ou bien encore 40% de celles souffrant de démence de type Alzheimer ou de cancer. Vous retrouverez l'intégralité de leur dossier et les chiffres sur le site internet du collectif de lutte contre la dénutrition qui est disponible dans la description de ce podcast. Nutriculture s'intéresse plus au contexte du repas, à l'organisation de ce dernier et au comportement tant des convives que des aidants. Nous accompagnons pour cela les établissements, les services, les associations, les particuliers, tout au long de l'année. Nous avons choisi de nous engager directement ou indirectement avec le collectif de lutte contre la dénutrition, avec Happy Restauration, avec le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine, tout au long de cette semaine. Partageant avec H Village des informations utiles et pratiques pour l'ensemble de celles et ceux en charge de réaliser des menus, des courses, de préparer le repas et d'aider à la prise, nous vous proposons un podcast construit autour de 5 axes. Le premier, c'est une rapide définition avec un exemple. Le second, une liste des 5 points clés pour accompagner le repas efficacement. Le troisième, ce sont les signes d'alerte et les éléments à repérer. Le quatrième concerne l'observation et la négociation de l'aide apportée. Et le cinquième décrit les besoins avec des astuces. Premièrement, qu'est la dénutrition ? C'est, entre autres, un décalage entre la quantité d'aliments réellement consommés par un convive et ses besoins en apport protéino-énergétique quotidien pour faire fonctionner son organisme et répondre à ses besoins. Prenons un exemple permettant de comprendre une situation qui génère de la dénutrition. Monsieur Delage est veuf. Il vit seul à domicile, il a été diagnostiqué malade parkinsonien. Un plan d'aide a été mis en place. Une auxiliaire de vie passe chaque matin durant 30 minutes pour l'aider à se lever, à faire sa toilette et à prendre son petit déjeuner. Monsieur Delage subit de nombreuses conséquences de sa pathologie. Il est très crispé, ses mouvements sont lents. Il a beau décider de faire quelque chose, son corps ne suit pas. Le temps minimal permettant à son traitement anti-parkinsonien d'être efficace est de 30 minutes. Aussi, lorsque l'auxiliaire de vie passe et lui donne sa thérapeutique, elle ne dispose que de 30 minutes, la toilette est difficile, douloureuse et le petit déjeuner impossible. Ce plan n'est pas suffisant. Monsieur Delage commence donc sa journée avec des apports insuffisants, alors que ses contractions musculaires et sa pathologie nécessiteraient des apports adaptés. Il est entré à l'EHPAD dénutri. Arrivé en salle de restaurant, il est installé juste à côté de l'entrée principale. Il est installé sur une chaise, très amaigri, appuyant sur son sacrum. Cette position est insupportable. Il essaie de se concentrer pour saisir les couverts adaptés par l'ergothérapeute, mais il lui faut beaucoup de temps pour les porter à la bouche. Ces tremblements occasionnent la perte de tout ou partie du contenu. À chaque fois que quelqu'un entre dans la salle de restaurant et pousse un grand « Bonjour !» à la collectivité, Monsieur Delage sursaute. Ce sursaut, c'est une crispation de tout son corps. Monsieur Delage sort, épuisé du repas, crispé, et il n'a presque rien mangé. Cette situation montre à quel point il est très important que les équipes médicales et paramédicales sensibilisent, forment l'intégralité des personnels au service. En EHPAD, nous accueillons des personnes avançant en âge, souffrant très souvent de troubles cumulés, troubles d'orientation, de basse vision, de préhension, de mastication. Ce sont souvent des résidents dysphagiques qui ont du mal ou qui ne peuvent pas déglutir et qui sont à risque de dénutrition. Il faut impérativement comprendre l'ensemble de ces points pour pouvoir prodiguer un accompagnement de qualité et faciliter l'accès à un repas plaisir et santé pour tous. Le deuxième élément de ce podcast concerne les 5 points clés pour accompagner le repas des personnes avançant en âge fragilisées. Le premier de ces points, le plus important pour nous, sur lequel nous souhaitons insister, est que la plus belle des assiettes contenant les aliments les plus riches ne produira jamais d'effet sur la satisfaction ou sur la santé si elle n'est pas consommée. Le second point sur lequel nous aimerions vous alerter est qu'il appartient aux professionnels médicaux et paramédicaux de former l'ensemble de l'équipe, notamment au service, car si le repas est un soin, le service l'est tout autant. Proposer un plat sans conviction, en émettant un avis négatif ou en omettant de l'annoncer. Servir une assiette minuscule à un gros mangeur ou une grosse assiette à un petit mangeur entraîne des réactions que sont le refus, la frustration et le dégoût. Le troisième point pour nous primordial est l'ordre du service des composantes du repas. Beaucoup de personnes avançant en âge ont du mal à rester assis à table longtemps. Les installer en salle de restaurant avant le début du repas, les faire attendre lorsque l'entrée est servie à tout le monde alors qu'ils n'en consomment pas forcément et leur proposer le plat de résistance 45 minutes à 1 heure après leur installation alors qu'ils sont en déficit protéique nécessite une réflexion. Pourquoi ne pas organiser le repas et leur apporter le plat principal en même temps que l'entrée pour les autres ? Le quatrième point sur lequel il nous paraît important d'insister également concerne la stimulation. Nous sommes toutes et tous animés par une réelle bonne volonté. Nous voulons stimuler les convives pour obtenir un résultat et faire en sorte qu'ils consomment. Mais demander avec insistance à un malade atteint de troubles neuroévolutifs à maintes reprises de bien vouloir manger et finir son assiette est une source de stress qui va l'empêcher d'atteindre l'objectif souhaité. Cette stimulation est aussi indirecte et nécessite une réflexion importante sur l'organisation du service. Nous nous déplaçons beaucoup. Pour des raisons de commodité, la porte de la plonge est souvent ouverte. Les équipes passent avec des téléphones, des bips à la ceinture. Cette surstimulation multisensorielle, dans un lieu qui mériterait le plus grand calme, ne permet pas d'instaurer le climat propice à la consommation des mets servis. Le cinquième élément sur lequel nous souhaitons attirer votre attention est la communication. Si la dénutrition est un écart entre la quantité d'aliments consommés par un résident et ses besoins, il faut absolument créer un métier de cuisinier médico-social en établissement et associer les serveurs. Il faut également une communication continue entre l'équipe médicale, paramédicale et l'équipe hôtelière. N'oubliez pas que les cuisiniers ne sont pas formés à la prise en soin de la dénutrition. Ils ont donc besoin d'une information précise pour savoir quoi préparer, en quelle quantité, avec quel produit et pour qui. Et cette information devra aussi être très claire pour les équipes au service. De la même façon, une assiette enrichie, c'est un point de la lutte contre la dénutrition. Le second est la mesure des ingestats. Est-ce que cette assiette a été consommée, oui ou non, intégralement ou pas, par la personne bénéficiant de ce soin ? Il est donc très important que la communication entre les différents services soit précise. Troisième partie de ce podcast, à domicile ou en établissement, qu'est-ce qui doit nous alerter et comment repérer un risque de dénutrition ou une dénutrition avérée ? Tout d'abord, soyons attentifs aux comportements alimentaires et notamment aux situations de refus. Un convive qui mange normalement et soudainement refuse son assiette, c'est une information qu'il faut diffuser pour une attention collective immédiate. Est-ce que cette situation est exceptionnelle, passagère ou est-ce qu'elle dure ? Si le convive concerné a partagé un 4-4 au café avec sa famille le matin, pas de souci, c'est un non-événement. En équipe, vous allez analyser des causes de refus. La résidente ou le résident concerné est-il mal assis ? A-t-il des douleurs ? Est-il ou est-elle contrarié, fatigué ? Peut-être que le logement est très éloigné de la salle de restaurant et que les déplacements entraînent une grande fatigue. Peut-être que l'appareil dentaire est complètement inadapté et que le fait de le lui faire porter entraîne des douleurs et empêche la mastication. De la même façon, à domicile ou à un établissement, un résident qui refuse de mettre son appareil auditif peut être gêné par les bruits. La dénutrition, elle a de multiples origines et de multiples conséquences, dont la fonte de la masse musculaire. Cette dernière est parfois accélérée par l'application de régime. Savez-vous qu'une personne âgée au régime et qui perd du poids perd en réalité du muscle ? C'est pour cette raison que les recommandations de bonne pratique précisent qu'il est indispensable d'être suivi par des professionnels de santé, car l'application de régimes parfois stricts peut être une des principales causes de dénutrition. L'amaigrissement entraîne de nombreux signes qui doivent vous alerter. Est-ce que la personne que vous accompagnez a les joues creusées ? A-t-elle l'air fatiguée ? Si c'est un homme, son pantalon est trop grand et sa ceinture percée d'une multitude de trous additionnels ? Si c'est une femme, est-ce que sa jupe glisse ? Est-ce que ses bas sont sur ses chevilles ? Elle ou il a-t-elle perdu son alliance ? Tous ces signes sont très importants et méritent votre attention. En établissement, vous pourrez en parler aux transmissions. À domicile, vous pourrez communiquer avec l'auxiliaire de vie, l'infirmière et le médecin, mais si possible, avec une description assez précise de la situation. Rappelons-nous que nous accompagnons des personnes qui avancent en âge. Lorsque nous servons le repas, nous devons apporter une attention particulière à tout le contexte global. S'il y a de la soupe, il doit y avoir des cuillères à soupe. Si M. Delage a des couverts adaptés, alors nous devons nous organiser pour que tout le monde le sache, pour qu'un plan de table et des aides techniques soient réalisés, afin que M. Delage dispose de ses outils chaque jour à chaque repas. Poser un yaourt devant une personne atteinte par une maladie neuroévolutive de type Parkinson avec des tremblements ne suffit pas. Il faudra proposer une aide pour ouvrir le yaourt. Rappelons ici que la recherche du consentement vaut participation du résident. Il est possible de lever la languette et de lui laisser finir l'ouverture. Il est aussi possible de servir un fromage blanc ou un yaourt dans un contenant adapté. De la même façon, servir par exemple un morceau de viande à quelqu'un qui a une baisse de tonus musculaire et de force, tableau complété par des douleurs articulaires, nécessite une grande attention de la part de l'équipe au service. Si un résident n'arrive pas à couper sa viande et à consommer par exemple un beefsteak entier, entre le bif entier et le beefsteak haché, il est possible de s'appuyer sur des outils et grilles tels que celle de l'IDDSI en vue de présenter un morceau de viande coupé, ce qui permettra à un résident de manger le plus longtemps possible, de tout comme tout le monde. Vous retrouverez la définition et les outils de l'IDDSI sur notre plateforme. Si votre convive n'arrive plus du tout à saisir ses couverts ou s'il ne les identifie plus, vous pouvez avoir recours au manger-main. Nous découvrons souvent des recettes mixées pour le finger food. Ce n'est pas toujours utile. Une personne qui a des troubles praxiques de l'appréhension n'est pas forcément dysphagique. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas forcément en difficulté pour déglutir. Au lieu de lui servir des coquillettes, nous pouvons lui porter des cannelloni. À la place d'une viande hachée, nous pouvons lui servir des boulettes de viande facilement saisissables, accompagnées de bâtonnets de légumes à la place de la purée. Nous proposons dans la description de ce podcast de retrouver les liens utiles qui vous permettront d'accéder à des fiches pour comprendre, repérer, cuisiner et évaluer. Enfin, la dernière partie de ce podcast concerne l'identification des besoins et l'apport d'astuces. Retenons que la personne âgée a les mêmes besoins énergétiques que l'adulte et les besoins ne diminuent pas avec l'âge, bien au contraire. Lorsque surviennent des problématiques de pathologie, notamment dans le cas de personnes avec des tremblements, des troubles d'orientation, de déambulation, en cas d'épisodes infectieux, de fractures, les besoins augmentent. En cas de troubles digestifs ou bucco-dentaires, lors d'épisodes délicats tels que constipation, troubles de l'humeur, lorsque les personnes sont isolées, lorsqu'elles prennent de nombreux médicaments, toutes ces situations peuvent entraîner une baisse ou une perte de la sensation de faim, de l'appétit et donc une dénutrition. Il peut être important de connaître la madeleine de Proust de votre convive pour lui servir régulièrement de petites quantités enrichies et de tout mettre en œuvre pour favoriser une alimentation plaisir, une alimentation santé. L'alimentation de la personne âgée, quelles que soient ses facultés, doit être fondée sur cette quête de plaisir avec le moins de restrictions possible. Un repas réussi, c'est une réflexion globale, avec au centre le seul expert de son quotidien, le résident lui-même. Rappelons aussi que les bases de la cuisine française permettent très facilement des apports complets en protéines et énergie. Une salade d'endives n'a pas d'intérêt, mais une endive au jambon en sauce blanche et gratin est un plat connu, apprécié et riche. Les appareils tels que ceux utilisés pour les quiches, les flans sont faciles à réaliser. La consommation d'œufs, œufs cocottes, œufs à la crème et tous les desserts de type crème catalane sont faciles à réaliser et riches en apports. Les protéines se trouvent dans les produits carnés tels que la viande, les volailles, la charcuterie, mais aussi dans le poisson, dans les œufs, dans les produits laitiers, notamment dans les fromages. Vous avez aussi des apports en protéines dans la combinaison des céréales et des légumineuses. Vous pouvez donc associer du riz et des haricots rouges, du riz et des petits pois. Intéressons-nous aux cuisines du monde, elles sont de précieuses sources d'inspiration. Vous cuisinez des fleurs de brocoli ? Poursuivez la cuisson de l'intégralité du pied que vous allez mixer avec un peu de crème fraîche et du parmesan. Vous utiliserez cette préparation comme une sauce pour une viande ou comme une entrée froide que vous pourrez surmonter d'un œuf mimosa. Ainsi, vous obtiendrez un produit facilement consommable par les résidents ayant des troubles de mastication et devant manger enrichi. Vous réalisez des potages pour les personnes accompagnées ? Servez-leur plutôt un velouté, par exemple de chou-fleur avec le pied pour recette anti-gaspi. Vous retrouverez de précieux conseils sur le site du collectif de lutte contre la dénutrition. Vous pourrez également assister tout au long de la semaine à des ateliers et des webinaires. Nutriculture vous accompagne en partageant avec sa communauté des outils, fiches, recettes à retrouver sur la plateforme des repères du repas. Merci à H-Village pour ce partenariat, au collectif de lutte contre la dénutrition pour son action. N'oubliez pas de vous rendre sur la plateforme des repères du repas pour y découvrir des recettes, des trucs et astuces, des solutions d'enrichissement. Alors, bon appétit à toutes et à tous et à très bientôt.